Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous, il est 20h pile en ce jeudi soir. Un vrai plaisir que de vous retrouver, comme chaque soir d'ailleurs. Bienvenue sur BFM Business, que vous soyez dans votre voiture, peut-être en train d'écouter la radio, ou bien confortablement installé chez vous devant votre télé. Vous le savez, c'est Tech & Co, la quotidienne qui débute maintenant, chaque soir, de 20h à 21h30. C'est toute l'actu tech décryptée, décortiquée par toute la rédaction et par nos experts. Avec ce soir, dans Tech & Co, la quotidienne, eh bien, on va revenir sur Amazon qui a annoncé aujourd'hui poursuivre ses investissements colossaux du côté d'Anthropic, une start-up dédiée à l'intelligence artificielle à qui l'on doit Claude, entre autres. On va en parler dans un instant. On parlera aussi de l'échec scolaire avec un ChatGPT qui est pointé du doigt dans une étude parce qu'effectivement, les enfants qui utilisent ChatGPT peut-être travaillent moins, font moins travailler leurs neurones. Et puis, on s'intéressera à ce chantier titanesque du Grand Paris, de la 5G dans tous les futurs métros parisiens. C'est un travail colossal. On en parlera avec la société Totem qui s'occupe justement de tout cela et qui est une filiale d'Orange. Ce sera en toute fête de Tech & Co. Merci d'être avec nous en tous les cas. Bienvenue, installez-vous, c'est parti pour vos 90 minutes de tech comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec pour débriefer l'actu en ce jeudi soir, Salim Nassur est avec nous. Salut Salim. Salut. Fondateur de Mars, ex de chez Google, et à ses côtés, c'est Alexandre Lebrun qui est avec nous. Salut Alexandre.
Bonsoir.
Co-fondateur et président de Nabla et ancien chercheur en IA chez Meta. Google Meta, tout va bien.
On est bien.
Vous faites des bisous maintenant. Bon,
non, mais on peut faire des checks. Allez.
Voilà, un check entre un ex de Google et un ex de Meta.
Oui, mais t'as bien dit ex, c'est pour ça.
Oui, c'est pour ça. Alors, je suis sûr qu'il y a des checks quand même aussi, oui, entre des salariés des deux boîtes. Et Jérôme Marin est avec nous. Salut Jérôme.
Salut François.
Check. Voilà, on peut, nous, fondateur de la newsletter cafetech.fr. Voilà, un joli casting ce soir pour commenter l'actu avec plein de sujets passionnants. Vous savez que c'est vrai que dans le domaine des puces, l'Europe est un peu à la traîne. Alors, on a STMicro, hein, qui est une belle boîte, mais on a surtout ASML qui a énormément d'importance aujourd'hui pour fabriquer des processeurs. La plupart des fondeurs sont obligés de passer par ASML. C'est une boîte européenne qui a failli quitter les Pays-Bas, mais qui visiblement va y rester. On va y revenir. On s'intéressera aussi à ChatGPT, je le disais tout à l'heure, qui pourrait causer des échecs scolaires. LinkedIn qui veut concurrencer TikTok. Et puis la Floride qui veut interdire les réseaux sociaux au moins de 14 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est possible, tiens? Parce qu'au-delà de ça, dire interdire les réseaux sociaux, après, il faut quand même les moyens pour pouvoir les interdire. Mais pour débuter, donc, Amazon, voilà, on ne présente plus Amazon, qui, depuis quelques mois maintenant, injecte beaucoup d'argent dans Anthropic. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls, hein. Je crois que Google aussi a mis au pot. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon a fait un deuxième investissement de 2,75 milliards de dollars dans cette boîte. Et on se pose la question, pourquoi Amazon investit-il ou tel autant dans Anthropic, qui est, on va dire, la pépite de l'IA en ce moment, hein. C'est vrai que tout le monde parle d'eux. Claude est, paraît-il, encore plus performant que ChatGPT. Donc, il y a une vraie... C'est un peu le Mistral américain, hein, Anthropic. Ouais, hein.
Sauf que c'est pas open source, c'est plutôt...
Pas open source.
Mais Mistral n'est plus open source.
Enfin, il y a une partie open source, ouais. C'est une partie...
Anthropic, c'est un peu le troisième gros acteur du marché. Donc, il y a OpenAI, il y a Google, et donc il y a Anthropic. Amazon n'est pas chez OpenAI puisqu'ils sont avec Microsoft. Ce n'est pas chez Google parce que c'est Google. Et donc, il reste le troisième larron, c'est Anthropic. Donc, ils investissent. Donc,
mais ce qui est rigolo, c'est que Google investit dans Anthropic.
Et Google a déjà investi dans
Anthropic. C'est ça qui est fou.
Mais l'idée d'Anthropic, c'est de ne pas avoir d'exclusivité. Voilà, ils vont chercher de l'argent, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Ils ont pris 4 milliards chez Amazon, ils ont pris 2 milliards chez Google. Sachant que ce n'est pas du cash. La plupart de cette somme, c'est des crédits cloud, c'est-à-dire pour utiliser le cloud AWS ou le Google Cloud pour entraîner les modèles. Mais bon, ils ont besoin d'argent. Et Amazon essaie de s'accoquiner un peu ou de s'allier avec Anthropic pour pouvoir concurrencer Azure et Google Cloud qui ont pris de l'avance dans l'IA, dans le cloud.
Ce qui est intéressant, c'est que Anthropic, c'est pas n'importe qui est à l'origine de cette boîte-là. Hein. C'est des anciens d'OpenAI qui sont partis, qui ont lancé Claude, je le disais tout à l'heure, qui est un très bon large language model. Vous avez testé Claude ou pas? Moi, j'ai essayé. On peut pas, ça marche pas en France. Il faut.
Au début, tu pouvais, puis maintenant, tu peux plus.
Maintenant, enfin, il paraît que c'est meilleur que ChatGPT dans certains.
Plus l'avoir en version payante parce qu'il te faut une carte américaine. En fait, ils ont bloqué. À un moment, j'avais, et puis ils m'ont squeezé. Même si tu passes avec un VPN, ça marche plus parce que t'as pas ton compte américain. Quoi.
Qu'est-ce que ça donne? Vous avez testé ou pas?
Personnellement, je pense que Claude est inférieur à GPT-4,
okay.
qui est le ChatGPT. Sur les benchmarks, sur la plupart des benchmarks qui battent GPT-4, mais attention, parce que GPT-4 a été conçu il y a déjà 2 ans maintenant. Il est sorti il y a moins de 2 ans, mais il a été entraîné il y a 2 ans. Et beaucoup de ces benchmarks ont été faits après la sortie de GPT-4. Et après, c'est facile, si je sors un LLM maintenant, de le suroptimiser pour battre pour ces benchmarks. Et donc, il ne faut pas oublier que GPT-5 va sortir sans doute pendant l'été. Donc, on compare à quelque chose qui a 2 ans et qui a été entraîné avant les benchmarks. Donc, personnellement, d'autre part, nous, on a testé sur notre use case de médical, donc vraiment sur le produit lui-même, la comparaison GPT-4 et Claude, le plus gros des modèles de Claude, Opus, et GPT-4 reste supérieur. Et moi, ce que j'entends des startups autour de moi qui utilisent LLM dans les vrais produits sur le terrain, c'est que GPT-4 reste meilleur. Donc, personnellement, je suis un peu sceptique sur...
Oui, dubitatif sur la supériorité de Claude.
De Claude Opus.
Après, les benchmarks, comme tu disais, on peut facilement les manipuler. Donc,
comme tous les benchmarks.
Et de toute façon, ce n'est pas public. Après, il faut les croire. Hein. C'est les chiffres qui donnent. Il faut croire que c'est vrai ou pas. Donc,
Mais il y a une petite fonctionnalité. Je ne sais pas si... Après, je te donne la parole, Salim, bien sûr. Mais il y a une fonctionnalité qui est très sympa sur Claude. C'est quand vous voulez faire corriger des textes. Parce que Claude parle en français, bien évidemment. Il corrige les fautes d'orthographe. ChatGPT le fait très bien aussi. Sauf que Claude vous dit... Pourquoi vous avez fait une faute? Et je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'il va vous mettre le contexte de la faute pour que vous puissiez ne peut-être pas la reproduire la prochaine fois. C'est plutôt pas mal.
Là où je te rejoins, en fait, je vous rejoins tous les deux sur le fait qu'on puisse faire dire ce qu'on veut au modèle. Après, la réalité, c'est que faut pas qu'on rentre dans cette comparaison, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y aura un nouveau modèle, ben, il sera supérieur à l'autre. Donc, comme tu dis, il y aura ChatGPT-5, puis après, tu auras Claude 4. Donc, il y aura toujours un moment où il y en aura un qui sera supérieur à l'autre. Après, il faut regarder au niveau des usages. Ce qui est intéressant quand même, et j'ai lu ça, je l'ai pas testé, mais j'ai lu sur Claude versus GPT 4, c'est le test de la botte de foin. Je sais pas si vous voyez le test de la botte de foin, c'est l'aiguille dans la botte de foin. Et ils ont fait ce test-là avec Claude, et apparemment, c'est assez bluffant. Ils lui ont mis... Et ça, c'est un test que tu fais souvent avec des LLM. Et tu prends un grand corpus de données comme ça et tu changes et tu mets une phrase qui n'a rien à voir avec le contexte. D'habitude, donc, GPT le fait, Gemini 1.5 maintenant le fait. Imagine, tu prends 2 bouquins et tu remets une phrase qui n'a rien à voir. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait avec Claude, ils ont mis une phrase sur des pizzas, par exemple, qui n'a rien à voir avec le truc. Et ce qui était impressionnant avec Claude, c'est que ils ont ressorti, enfin, il lui a répondu, j'ai noté la phrase, c'était fou. Je soupçonne que ce fait sur la garniture de pizza a peut-être été inséré comme une blague ou un test pour voir si j'y prêtais attention. Et là, en fait, tu vas un petit peu plus loin. Ouais. Parce qu'il dit pas juste, c'est la phrase qui est sortie. Donc, sans rentrer dans le côté sentient et il a une conscience. Mais quand même, tu te dis, il a repéré que tu es en train de le tester. Et là, tu t'es passé quand même à un niveau au-dessus d'un ChatGPT-4 qui ne sait pas faire ça aujourd'hui. Tu vois. Mais en effet, on verra ce que fera le 5. Donc bon. Et puis après, juste pardon, pour revenir sur ce que tu disais, sur ce qui est intéressant de voir, c'est et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ce qui me tue, c'est ce que font les grands hyperscalers à la Google, à la AWS et à la Microsoft, comme tu disais, chacun a le sien aujourd'hui. Mais c'est un peu comme si tu avais une centrale nucléaire, et c'est un peu ça en fait, et qu'à chaque fois qu'il y a une entreprise qui se crée pour utiliser de l'électricité, tu prends des parts dedans pour qu'ils puissent utiliser de l'électricité, et à chaque fois tu gagnes parce qu'ils te payent, et tu gagnes parce que les clients de cette boîte-là te paient. Donc ils sont en train de montrer un espèce de truc assez pharaonique, dans le sens où ils vont gagner sur tous les tableaux, en fait. Oui. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup dedans, parce qu'il y a beaucoup à récupérer.
Et sur les 4 milliards, il y en a sans doute une grande partie qui va revenir directement à AWS sous forme de...
Mais évidemment.
Qui ne partiront même pas, en fait.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un bon business, si tu veux.
Ce qui est intéressant, c'est pour Amazon, et pourquoi ils investissent dans Anthropic, dans le deal, en fait.
Ils n'ont même pas de siège au conseil d'administration.
Non, c'est pas important, en fait. Et en fait, ça... C'est aussi parce qu'ils veulent éviter OpenAI et Microsoft. Microsoft n'a pas de siège à OpenAI parce qu'il y a la FTC, donc le gendarme de la concurrence, qui est là. Il dit si vous avez un siège, est-ce que vous exercez du contrôle parce que vous êtes très important. Donc c'est aussi pour des raisons d'antitrust. Mais dans le deal entre Amazon et Anthropic, il y a aussi ce qui est intéressant, c'est qu'Anthropic déjà va entraîner Claude sur AWS et va surtout utiliser les puces d'Amazon. Donc Amazon a deux puces qui s'appellent Inferentia et Trainium, qui sont des puces un peu les rivales de Nvidia, mais Nvidia. Beaucoup moins puissantes aujourd'hui. Et elles ont un peu un manque de légitimité, de crédibilité. Donc ça permet à Amazon aussi d'apporter un peu de crédibilité à leurs efforts sur les puces pour que les clients d'AWS utilisent ces puces à Amazon plutôt que les puces d'Nvidia qu'Amazon doit payer, en fait. Elle doit payer très cher.
Oui, mais enfin, moi, je suis Anthropic. Je n'ai pas envie d'utiliser des puces Amazon si elles sont moins bonnes que celles d'Nvidia, non ?
Ils vont, à mon avis, ils utiliseront les deux. Hein.
Oui, mais quand on te dit tu fais une économie de 2 ou 4 milliards de dollars en utilisant de... Ça se raconte, tu vois. Sinon, ouais, ça se raconte, tu les as pas.
Mais si tu n'arrives pas à obtenir tes buts parce que tu as moins de puissance de calcul ou moins efficiente...
Revendez qu'aujourd'hui, ils y arrivent.
Mais les puces les plus performantes, tu n'en as pas besoin pour tout, en fait.
Oui,
donc, tu as certaines tâches que tu peux faire avec des puces moins performantes et avec les puces d'Amazon, ça devrait aller. Après, je pense qu'ils ne vont pas détériorer l'expérience, leur LLM, pour utiliser les puces d'Amazon. Mais en tout cas, officiellement, ils vont utiliser les puces d'Amazon, peut-être.
Parce que vous savez que Alexa va être mise à jour, je crois que c'est déjà le cas aux États-Unis. Il a été mis à jour avec de l'IA générative, donc il est un peu plus intelligent que le précédent et on arrive à avoir des discussions à peu près cohérentes avec lui. C'est Anthropic ou c'est un autre système là que Amazon a mis en place, je ne sais pas.
Je pense pas que ce soit Anthropic encore,
j'ai posé une colle globale.
C'est ça. Là tu nous as
top. Ben voilà, mais je me suis même fait moi avoir en fait, est-ce que je devrais avoir la réponse,
mais je reviendrai.
Mais je reviendrai, on reviendra.
I'll be back.
Et on va analyser tout ça. Dans l'actu, je le disais aussi, ASML et les Pays-Bas tentent tout pour le tout actuellement pour conserver ASML sur son territoire. 2,5 milliards d'euros déposés sur la table pour développer la ville d'Eindhoven. Zidane Azouzi est avec nous. Bonsoir Zidane.
Bonsoir François.
Alors l'objectif est clair, s'assurer que ASML, spécialiste des semi-conducteurs, ne délocalise pas ses activités à l'étranger.
Tout à fait. Opération Beethoven, voici le nom du plan dévoilé par les Pays-Bas afin de maintenir le géant ASML chez lui. Il faut dire que depuis les dernières élections législatives et la victoire de l'extrême droite qui ont inquiété ASML, le leader du parti avait promis de réduire drastiquement l'immigration. Très vite, ASML avait fait part de son inquiétude de ne plus pouvoir recourir à la main-d'œuvre étrangère. Le groupe ASML, devenu un symbole de l'industrie européenne, a même menacé de quitter le pays. La plus grande entreprise technologique d'Europe emploie 42 000 salariés dans le monde. Plus de la moitié sont basés dans son immense complexe dans la banlieue d'Eindhoven et une part importante d'entre elles vient de l'étranger. Les 2,5 milliards d'euros annoncés serviront à améliorer le logement, les transports ou encore l'éducation dans la région d'Eindhoven. L'objectif est clair, rendre plus attractive la vie et le travail dans la ville où ASML possède son siège. Plus globalement, les multinationales basées aux Pays-Bas s'inquiètent de la suppression progressive d'un allègement fiscal en faveur des talents expatriés. Il y a 6 ans déjà, pour des raisons fiscales cette fois, c'était Shell et Unilever qui avaient décidé de quitter Amsterdam pour le siège social à Londres. Aujourd'hui, le gouvernement néerlandais veut éviter que l'histoire se répète avec ASML.
Voilà, il met le paquet, tu le disais Zidane, avec 2 milliards et demi sur la table. Merci beaucoup, c'était Zidane Azouzi. Alors, on peut peut-être expliquer ce que fait ASML, parce que c'est assez complexe ce qu'ils font. En fait, ils font de la photolithographie, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des machines qui sont des graveurs en fait de processeurs. C'est capital. Il y a très peu de gens qui savent faire ce qu'ils font, je crois.
En fait, il y a deux types de machines que fait ASML. Il y a ce qu'on appelle les ultraviolets profonds, donc DUV en anglais, qui est une technologie que maîtrisent d'autres acteurs. Il y a une autre technologie qui s'appelle EUV, qui est ultraviolet extrême, et ASML est la seule à maîtriser cette technologie.
Qui permet de graver encore plus petit. Si on arrive sous à avoir des 5... trucs qui font quelques nanomètres, c'est grâce à eux.
Sous les 5 nanomètres, généralement, il faut faire de l'EUV. Et ASML, c'est le seul à savoir le faire. Et donc, TSMC, qui est donc le fondeur, ou Samsung, ou d'autres, ou Intel, quand ils veulent graver à moins de 5 nanomètres, doivent acheter des machines d'ASML. Et donc, c'est une entreprise qui a vu son chiffre d'affaires exploser, qui a sa capitalisation boursière qui a explosé aussi, et qui veut doubler ses capacités de production dans les 3 ans qui arrivent. Le problème, c'est que les Pays-Bas, c'est un petit pays, que Eindhoven, donc Veldhoven, c'est la ville où ils sont installés, il n'y a pas de logement, il y a des problèmes de transport, ils se plaignent que l'électricité est trop chère aux Pays-Bas, et c'est pour ça qu'en fait, ils ont menacé, pas de déménager aux Pays-Bas, mais d'installer des nouvelles usines à l'étranger, notamment en France. Mm-hmm. On ne sait pas si c'était vraiment une vraie menace ou c'était plus une tactique pour négocier, sachant qu'aux Pays-Bas, on a un gouvernement un peu de transition parce qu'il y a des élections législatives qui ont eu lieu en novembre, qu'il n'y a toujours pas le gouvernement de coalition qui a été mis en place. Donc, les mesures qui ont été annoncées, c'est le gouvernement de transition qui les a annoncées. Est-ce qu'elles perdureront ou pas après ? Mais voilà, en tout cas, ils ont joué de leur position de force pour obtenir ce qu'ils voulaient et ils l'ont obtenu.
Intéressant, hein, cette boîte qui a un savoir-faire unique. Finalement, là, on rendait compte qu'on arrive, grâce à eux, à graver l'infiniment petit. On arrive à faire des choses à 2 nanomètres, ce qui est incroyable. Et chaque année, ils arrivent à réduire par deux, en fait, la taille de leurs composants. C'est incroyable. Il faut savoir que cette boîte existe depuis les années 80. Et elle a été cofondée par Philips, qui après s'en est séparé un petit peu plus tard. Donc, un beau destin. Est-ce que ASML aurait pu arriver en France, finalement ? Parce que ce qui est intéressant, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que le futur directeur d'ASML va être français, je crois. Hein.
Christophe Fouquet, je crois.
Christophe Fouquet, voilà. Mmh. Messieurs, ASML ?
Tu veux y aller comme tu veux ? Vas-y. Ok. Alors, est-ce que ça aurait pu arriver en France ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des yeux. Ce qui est certain, c'est que c'est vraiment bien d'avoir ça en Europe, ça c'est sûr. Et ce qui est assez passionnant, au-delà de la capacité de graver aussi petit, c'est cette guerre géopolitique qui est en train de se mettre en place de qui est-ce qui a chaque maillon de la chaîne. On vient de parler juste avant de la partie plutôt algorithmie avec les LLM. Là, on parle de vraiment la partie hardware et où est-ce que ça se passe. Et c'est assez rigolo parce qu'au final, tu vois, et on en parlait, je crois, tout à l'heure, il y a Intel qui essaie de revenir dans la course. Il y a Samsung, TSMC qui sont là côté Asie. Et on a effectivement la chance d'avoir ASML en Europe. Et là, tout le monde est en train de se battre pour prendre des positions. Parce qu'on sait très bien que ce sont les marchés de demain, en fait, hein, et qui ne vont pas décroître. Il y a des taux de croissance qui sont prévus dans les années à venir. Donc c'est pour ça que tout le monde se les arrache. Et je trouve ça intéressant que ce soit en Europe pour une fois. Oui.
Alexandre.
Et en fait, il y a quelques années, personne ne connaissait ASML.
Ouais.
Et là, tout le monde sait que c'est super important avec le contexte géopolitique. On est fiers que ce soit européen. Tout d'un coup, on les a découverts. Et c'est impressionnant de voir avec les tensions géopolitiques et l'importance de l'IA, comment des boîtes comme ça sont devenus tout d'un coup ultra stratégiques alors que c'était juste une filiale de Philips. Et c'est pareil pour TSMC où on sait que dans le jeu entre la Chine, Taïwan, les US, un des enjeux c'est TSMC parce qu'il y a des choses que seul TSMC sait faire aujourd'hui et que s'il y avait des problèmes à Taïwan, ce serait un gros problème pour l'Occident en fait de perdre TSMC. Donc c'est assez intéressant de voir comment la géopolitique et l'IA jouent dans ces jeux-là.
Comment ça se passe en fait ? On a des designers de puces qui travaillent de leur côté, qui après donnent les plans de ces puces-là à ASML.
Non, ASML fait juste la machine.
Oui, mais cette machine,
est envoyée au fondeur en fait.
D'accord.
C'est ASML qui grave. ASML ne grave pas les puces.
ARM fait les plans. Enfin, beaucoup des puces sont conçues par ARM.
Oui.
Qui licencie en fait les plans et voilà et à TSMC enfin au donneur d'ordre qui demande à TSMC de fabriquer ses puces et TSMC a besoin d'acheter la machine chez
cette machine en fait elle est faite sur mesure pour une typologie de puces.
Non, il y a plusieurs systèmes.
D'accord.
En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des machines qui sont très lourdes, hein, qui sont très grandes. Par exemple, la dernière machine qu'ils ont envoyée là chez Intel en janvier, c'est une nouvelle génération, elle fait 150 tonnes. 350 millions d'euros, 6 mois pour l'installer. Donc elle est arrivée en janvier chez Intel dans l'Oregon. Elle ne sera pas opérationnelle avant la fin de l'année. Et elle commencera à graver fin 2025. Donc c'est des machines. Alors après, ils envoient des ingénieurs pour les mettre en place. Donc c'est des processus qui prennent beaucoup de temps. Et c'est pour ça que construire une usine de semi-conducteurs, c'est des milliards et des milliards de dollars.
Parce qu'il en faut combien des machines comme ça dans une usine ?
Oui.
Il en faut beaucoup, ouais, c'est clair.
Et juste pour revenir sur ta question, est-ce qu'il pouvait venir en France ?
Oui.
Je pense que en fait, la vraie question et ce qui aurait été compliqué pour eux, c'est que pour faire une machine, il y a 5 000 sous-traitants. ASML a 5 000 sous-traitants. Et donc on imagine que 5 000 sous-traitants qui sont basés pour fournir leur puce à Eindhoven Pays-Bas pour finir leurs produits, aller en France c'est compliqué en fait. Et c'est pour ça aussi que.
Après c'est pas très loin, mais malgré tout.
C'est pas très loin, mais ça complique les choses. Donc je pense que moi personnellement, je pense que c'était plus une tactique pour essayer d'obtenir ce qu'ils voulaient. Et peut-être que s'ils n'avaient pas obtenu, ils auraient vraiment pensé à déménager.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'NVIDIA, mais finalement, quand on remonte la chaîne de valeur, ASML est au-dessus d'NVIDIA, finalement, parce que sans eux, NVIDIA aurait du mal à fabriquer ses puces, non ?
Alors, il n'y a pas au-dessus, en fait.
Voilà,
oui, mais sans NVIDIA, enfin, il n'y a, pas de ASML aussi. Donc,
on voit que tout ça
est interconnecté, tu vois. Et on en avait parlé, d'ailleurs, une fois, tu sais, quand il y avait les États-Unis qui voulaient, qui ont fait, d'ailleurs, un ban sur la Chine pour éviter qu'NVIDIA puisse envoyer des puces H100. Ben, t'as la Chine quand même, et notamment Taïwan aussi, qui dit bah, t'es gentil, mais il y a des composants qui sont faits chez nous. Donc, et c'est là où tu vois ce niveau stratégique qu'on ne voyait pas avant, hyper intéressant. Parce que tu te rends bien compte que tout est interconnecté aujourd'hui et qu'il n'y a pas un hardware qui soit fait juste à un endroit dans un seul pays. Donc tout ça est hyper. Et ce que tu disais sur Taïwan est tellement vrai. C'est aussi pour ça que, notamment, Sam Altman d'OpenAI est en train de se poser des questions sur. Comment je vais faire mes puces de demain ? Parce qu'en effet, si Taïwan tombe sous la Chine, ben forcément, ça va être plus compliqué d'exporter des puces aux États-Unis.
Et l'un des clients, forcément... Oui, pardon.
Non, juste sur les tensions géopolitiques, ASML, donc je parlais tout à l'heure, il y avait les machines EUV qui ne sont interdites d'exportation en Chine. Donc ça, c'est les Pays-Bas qui ont décidé ça il y a plusieurs années. Et sous la pression
C'est pas eux qui ont décidé, je pense que c'est les États-Unis.
Non, ça, c'est les États-Unis.
Oui.
C'est les Pays-Bas. Ça fait des années que, depuis que la machine existe, elle n'a jamais pu être exportée en Chine.
C'était pas sous l'ordre des États-Unis,
non.
En fait.
Et en fait, là, les États-Unis, avec la pression des États-Unis ces derniers mois, maintenant, c'est les machines DUV, donc les DUV, donc les plus puissants, qui ne peuvent plus être exportées non plus en Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, ils ont quand même ces machines. Et,
comment ils les ont alors ?
Ils les ont parce qu'ils avaient déjà commandé avant.
Ah oui. D'accord.
Et Huawei, qui a réussi à graver en 5 nanomètres pour son téléphone 5G, a détourné des machines d'ASML qui normalement ne peuvent pas graver en 5 nanomètres, mais ils ont utilisé une nouvelle technique avec SMIC, donc le fondeur chinois qui fait ça.
Ils les ont pimpés, quoi.
Et exactement, pour pouvoir graver en 5 nanomètres.
Incroyable.
Ouais, mais c'est comme quand ils avaient acheté des puces, des chipsets Nvidia et qu'ils commençaient à décortiquer.
Ouais, ou je sais pas, moi j'avais comme si un routeur Wi-Fi qui faisait 10 mètres de portée, ben je rajoute des antennes et je t'en fais 50 mètres, quoi. C'est un peu ça, c'est du bricolage. Mais c'est à saluer quand même, parce que mine de rien, il faut de l'ingéniosité. Et du talent pour arriver à modifier toutes ces machines, en fait. Donc c'est quand même intéressant. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question pendant longtemps, comment Huawei avait pu graver cette puce 5G en, je crois que c'était 5 nanomètres.
5 nanomètres, exactement.
Voilà, c'est ça. Alors que techniquement, ils n'avaient pas la possibilité technique de le faire.
Avec les DUV, tu peux le faire si vraiment tu utilises des méthodes. Alors, après, les spécialistes disent que c'est moins, t'as des déchets plus importants.
Parce que je crois qu'il faut plusieurs couches, je crois, non ? Enfin, c'est un truc comme
ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on utilise l'EUV qui est plus
abondant. Pas trop dur, là, les amis.
On va faire les auditeurs si on continue.
Là, on est dans le silicium, je vous dis pas.
Justement, j'allais dire, le dernier paramètre de l'équation, c'est les matériaux, et notamment les terres rares. Et là, on tombe. Et là aussi, on a un problème, parce que beaucoup sont soit en Chine, soit en Afrique. Et on a un problème géopolitique aussi. Pour garder l'accès à ces terres rares qui sont absolument nécessaires pour faire en dessous la couche la plus basse, c'est vraiment les
si on n'a pas ces terres rares, on n'arrive pas à faire
des
plaques de silicium.
Et c'est là que tu retrouves les Chinois en Afrique, et là tu te dis, ils ont pensé au truc avant.
C'est incroyable.
Non, c'est fou.
Tiens, puisqu'on est dans les processeurs, on va remonter un petit peu d'un niveau, mais rester chez Intel quand même, parce que bon, voilà, hein, Intel est aussi un client d'ASML, forcément. Et Intel qui a déclaré vouloir bientôt exécuter certaines tâches de copilote, vous le savez, donc le système de Microsoft. Parce que il faut quand même se remettre dans le contexte. Vous avez vu les nouveaux PC là qui arrivent avec la touche copilote ? C'est quand même un truc de fou.
Alors, obligatoire.
Ouais, c'est ça. Vas-y, parce que bon, c'est très drôle comme truc.
Mais non, mais c'est un truc de dingue quand même.
Oui, non.
Raconte l'histoire.
Non, mais en fait, voilà. Donc il y a une nouvelle appellation qui va s'appeler AI PC. Voilà. Donc les PC IA, qui est donc une appellation qui est décernée par Microsoft. Et pour l'obtenir, il faut qu'il y ait une touche Copilot, donc utiliser, et un peu comme la touche Windows que vous avez sur les PC Windows. Et en fait, les constructeurs veulent avoir cette appellation en PCIA parce qu'ils se disent que ça va nous permettre de doper les ventes et des gens vont pouvoir.
Sur un marché qui est plutôt en berne, on va dire.
Un marché qui est même plus qu'en berne, c'est catastrophique. Et donc, sur la touche Copilot, à mon avis, ça va être faire tiquer quand même, les concurrents de Microsoft et deux, les autorités de la concurrence.
Bien sûr.
On est quand même sur on impose un peu la solution de Microsoft.
Mais les premières touches Copilot arrivent, hein. Ça arrive chez, je sais plus, je crois Lenovo. Enfin voilà.
Ouais, mais je sais pas si vous avez vu. J'ai l'impression que c'est le film, c'est le jour de la marmotte en fait. On a déjà vu ce truc.
Ouais,
tu
ouais,
l'as dit. Hein. C'est la touche Microsoft, ouais. Enfin la touche Windows qui est arrivée avec Windows 95.
C'est 90.
Et derrière il y a une licence obligatoire pour tout le monde. On l'a déjà vu en fait. Tu vois, c'est, ouais. C'est rigolo.
Mais alors ce qui est rigolo, c'est que donc les constructeurs de PC sont on va dire, on leur pousse à installer cette touche Copilot, mais j'ai l'impression que Microsoft aussi pousse Intel à booster toutes ses puces à l'intelligence artificielle, parce que l'idée derrière tout ça, c'est que aujourd'hui Copilot, c'est dans le cloud, c'est-à-dire que bah, vous faites votre requête, vous avez le Wi-Fi, tout ça monte dans les serveurs et ça redescend, un peu comme ChatGPT. Sauf que Intel aimerait que une partie de toute cette intelligence soit dans l'ordi. D'où ce PC AI que tu expliquais, mais Intel travaille là-dessus, je crois. Hein. C'est pas encore le cas, mais ils aimeraient qu'une partie, en tous les cas, de toutes ces fonctions intelligence artificielle soit dans la puce.
Bah, Intel, leur intérêt, c'est de vendre des puces qui sont des puces plus chères aux constructeurs de PC. Microsoft, l'intérêt, c'est que si une partie de l'IA tourne en local, et ben tourne pas dans le cloud, ça fait des coûts d'inférence inférieurs. Et aujourd'hui, ça coûte très cher d'avoir un service d'IA à Copilot. Ça coûte très cher à Microsoft, même s'ils vendent $30 par mois. Et donc tout le monde a intérêt à ce que l'IA soit faite en local. Google le fait aujourd'hui avec Gemini Nano que vous pouvez sur les smartphones. Donc voilà, il y a une convergence d'intérêts pour que l'IA soit de plus en plus en local, mais ça sera juste des tâches assez limitées pour l'instant. Parce qu'il y a besoin de beaucoup de puissance informatique pour les tâches les plus importantes, et ça, forcément, ça passera dans le cloud.
Ça veut dire qu'Intel sait faire quand même des puces pour l'IA. On en doutait.
Ouais, mais là, c'est pas des.
En fait, ce que je dis, mais bon.
Non, mais ils ont raté le coche des serveurs, et ils essaient de se rattraper en se disant, bah, si jamais ça devait passer en local, on pourrait reprendre dessus, sur ce nouveau terrain, parce qu'on a, on a perdu la bataille précédente. Mais après. La perspective, quand même, s'il y a Microsoft dit qu'il y a 1,4 milliard de PC sous Windows dans le monde et ça baisse, alors qu'il y a déjà 6 milliards de devices sur Android et ça monte très vite. Et donc, je pense pas que à terme le marché du PC sous Windows soit. Enfin, ça va. Pour moi, ça va pas augmenter.
Ça va pas révolutionner, en
ça
fait.
Va pas, c'est juste ma.
Ouais, c'est oui, clair. Enfin, après, ils tirent leur épingle du jeu, quand même. Donc, entre zéro et un peu, ils sont contents de prendre un peu. C'est vrai que comme tu dis, ils avaient raté le coche. Et là, tu reformes le couple Intel de l'époque, hein, donc Windows et Intel. Et t'es à nouveau dans un truc où. Bah, c'est espèce de bundle pour tout le monde et tout le monde s'y retrouve entre Intel et Microsoft. Enfin,
ce qu'il faut aussi préciser, c'est que pour l'instant, la plupart des PC, Windows sont sur Intel ou AMD. Mais l'année prochaine, enfin même plutôt cette année même, il va y avoir des premiers PC sous ARM avec Qualcomm, avec Nvidia qui vont faire des nouveaux processeurs pour les PC. Et donc Intel doit aussi réagir parce que si Nvidia arrive avec un processeur ARM en disant moi j'ai un processeur ARM qui permet de faire de l'IA en local, et bien l'Intel va passer à la trappe en fait. Et donc pour Intel, il y a aussi un peu l'urgence parce que le PC, ça reste encore le gros du métier d'Intel. Et donc, il faut vraiment. Ils ne peuvent pas rater ça, quoi. Sinon, c'est.
Ouais. Et puis derrière ça, il y a aussi Apple qui a communiqué, je ne sais pas si vous avez vu, sur son processeur M3, là, qui vient d'arriver sur les nouveaux Mac, les MacBook Air, qui sont ready IA, quoi. C'est-à-dire que.
Il était déjà. Sur le MacBook Pro, tu l'as déjà, en fait. Enfin, c'est juste sur le MacBook Air.
Mais... C'est le MacBook Air parce que c'est le M3,
oui,
en fait. C'est le...
Oui, mais tu vois, moi, sur mon MacBook Pro, j'ai un M3. Ouais. Et j'ai justement pris un M3 parce qu'en fait.
Tu sais que les instructions IA seront.
Oui, parce qu'en fait, tu as cette couche qu'ils sont en train de développer chez Intel, qu'ils ont déjà développée sur la puce Apple, qui est une sorte de, on va dire, CPU pour faire simple. Avec des réseaux de neurones, juste pour pouvoir faire de l'IA et que ce soit plus performant. Et donc ça, ils l'avaient déjà anticipé, Apple. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'ils avaient anticipé la puce, et ils n'ont pas anticipé l'autre partie LLM. Donc là, ils sont en train de ramer pour ramener la partie IA. Mais eux, au moins, ils ont la puce. Tu vois. Ouais.
Et pendant ce temps, Nvidia remplit des stades avec ses conventions qui cartonnent. Hein. Hier encore, j'avais Serge Palaric, le patron Europe de Nvidia, qui nous expliquait que c'était, c'était la fiesta. Je crois que c'était à San José. C'était un carton phénoménal. On revient dans un instant, 20h28, l'info éco, et puis on repartira pour commenter l'actu jusqu'à 21h avec ce soir Alexandre Lebrun, Jérôme Marin et Salim Nassur. On va parler de ChatGPT. Alors ChatGPT est génial dans plein de domaines, mais est-ce qu'il l'abrutirait pas en quelque sorte les élèves à l'école? Et oui, c'est tentant hein, de se servir de ChatGPT pour les devoirs. Mais pendant ce temps-là, on fait un peu moins travailler notre cerveau. Une étude intéressante d'ailleurs a été développée sur ce sujet. Et Salim nous en parlera avec Alexandre, bien sûr, et Jérôme. A tout de suite pour la suite du débrief de l'actu tech sur BFM Business et Tech & Co.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on débrief l'actu ce soir, en ce jeudi, avec sur le plateau de Tech & Co, Alexandre Lebrun, cofondateur et président de Nabia et ancien chercheur en IA chez Meta. À ses côtés, Salim Nassur, fondateur de Mars et ex de chez Google. Et puis Jérôme Marin, fondateur de la newsletter Café Tech. Marjorie l'a abordé rapidement. Vous avez vu cette nouvelle Xiaomi, elle est pas mal du tout. C'est une voiture sympathique que Xiaomi donc vient de dévoiler officiellement. Première voiture électrique, elle s'appelle le SU7, le Speed Ultra 7. C'est un croisement en fait entre une berline et une voiture de sport de luxe qui vise d'abord le très concurrentiel marché chinois et qui veut s'imposer tout de suite comme leader de son secteur avec un concurrent dans le collimateur qui est, on le sait bien évidemment, Tesla. Justine Vassogne nous explique tout ça et on revient juste après.
Nous voulons offrir aux conducteurs de Tesla une meilleure voiture. Le patron de Xiaomi, Lei Jun, n'y est pas allé par quatre chemins. La SU7, il l'a répété à l'envi durant les deux heures qu'ont duré sa présentation, bat la Model 3, l'une des voitures phares d'Elon Musk, sur tous les plans, ou presque. La SU7 est plus rapide, a plus d'autonomie, 700 km contre 560, elle est surtout moins chère, 27 000 euros pour la voiture de base, quand une Model 3 en vaut 31 000, des tarifs qui ne concernent pour le moment que le marché chinois sur lequel Xiaomi entend se concentrer. Pour le moment, il faudra attendre 2 ou 3 ans avant de se lancer à l'international, a prévenu Lei Jun. S'attaquer à la Chine en pleine guerre des prix n'est déjà pas une mince affaire avec son premier modèle. Lei Jun a d'ailleurs ni qu'il perdait de l'argent. Au premier rang, lors de sa présentation, étaient installés de nombreux constructeurs chinois. Ils n'ont rien perdu du message de Xiaomi, qui vise la cour des grands. Les premières SU7 seront livrées fin avril.
Voilà, Xiaomi, les téléphones, les télévisions, ils font de l'électroménager en Chine, ils font tout. Et donc, leur voiture, le SU7. Salim, est-ce que Tesla doit trembler ? Avec Xiaomi?
Trembler, non. Par contre, ça va être compliqué d'aller en Chine, ça c'est sûr. Parce qu'ils vont prendre le marché. Et c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que quand tu connais le... Je ne le connais pas personnellement, évidemment, mais quand tu connais le patron de Xiaomi, c'est un gars qui est décomplexé, en fait. Son idole, c'est Steve Jobs.
Oui.
Tu vois,
il a donc, toujours dit d'ailleurs.
Il a toujours dit.
Il s'en est jamais caché.
Bien sûr, c'est son idole absolue.
Les magasins de Xiaomi ressemblent comme deux gouttes d'eau.
Exactement.
Au Apple Store.
Il met comme c'est moi, mais comme Steve Jobs, des cols roulés noirs.
Noir,
voilà. Ouais, mais vrai. Et donc, il est vraiment décomplexé sur la façon d'approcher le marché. C'est-à-dire que quand il est arrivé sur le mobile, il a pris un iPhone. Il s'est dit ça, c'est le truc qui est génial. Je vais faire exactement la même chose et je vais arroser le marché chinois. Et là, avec la voiture, il se dit exactement la même chose. Il dit je vais regarder. Ce qui a bien fonctionné, c'est Tesla. Je reprends les mêmes codes et je vais tout de suite aller à ce niveau-là. Mais surtout, et on l'a bien vu dans le reportage, je suis un peu moins cher et j'ai la fierté nationale. Donc forcément, il prend le marché très rapidement. Et c'est ce qu'il avait fait avec Xiaomi. Tu vois, Xiaomi, ils sont passés d'une marque qui n'était pas connue à, je crois qu'ils étaient 3 ou 4e à un moment vendeurs dans le monde, si vous voyez, rien qu'avec le marché chinois.
Ouais, donc
et après, ils se sont étendus.
Parce que Tesla est très puissant malgré tout en Chine. C'est une marque qui est très respectée, qui fait rêver, etc. Elle risque malgré tout d'être étouffée par le patriotisme chinois qui risque de se tourner vers Xiaomi, c'est ça?
Il y a trois choses. Il y a le patriotisme, il y a le prix, parce qu'in fine, les Chinois, comme partout ailleurs, ils vont regarder.
Elle sera moins chère que la Model 3 et elle aura plus d'autonomie.
C'est ce que je veux dire. Et le troisième truc, c'est l'autonomie. Et c'est exactement ce qu'il décrit dans sa keynote, c'est de dire on va faire mieux que Tesla et en plus on est chinois et on est moins cher. Donc au final, vous ne posez pas de questions.
Ouais. Après, il y a déjà des concurrents chinois et Tesla s'en sort plutôt bien en Chine.
Il y a BYD.
Et Apple est américain. Apple est plus cher que les constructeurs chinois et continue à vendre. Même si les ventes baissent en Chine, il continue à être toujours un gros marché pour Apple. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce lancement, c'est qu'on voit il y a beaucoup de nouveaux constructeurs qui se lancent en Chine. En Europe, c'est plus les anciens constructeurs qui essaient de faire la transition vers le mobile, vers l'électrique. Et aux États-Unis, il y a aussi des nouveaux constructeurs qui se lancent, mais tous ils ont des problèmes en fait. Déjà parce qu'ils sont rentrés en bourse beaucoup trop tôt en 2021-2022, et ils arrivent aucun n'arrive à vraiment à sortir leur modèle. Quand on voit que les Chinois, les constructeurs chinois, qui sont aussi la plupart sont ils ont aucune expérience dans l'automobile en fait, et ben ils y arrivent en fait. Et donc ça, c'est une sorte de voilà, il y a deux côtés. Les Américains qui étaient le roi de l'automobile, et bien en fait, à part Tesla dans l'électrique, c'est plus les Chinois aujourd'hui qui sont les maîtres de l'automobile électrique.
Le symbole est fort au moment où Apple vient d'abandonner sa voiture.
Oui.
Et Xiaomi, qui est l'Apple Bis, la sort un mois plus tard.
Après, Apple voulait faire une voiture autonome, donc c'était aussi un peu différent. Ce n'était pas qu'une voiture électrique.
Oui, mais quand même, c'est vrai que le symbole est fort. Ils arrêtent la voiture et ils y vont. Et là, si tu veux, où il y a quand même un vrai avantage pour Xiaomi, et tu l'as vu avec les trottinettes. Ils ont pris une grosse part de marché sur les trottinettes électriques. L'avantage qu'ils ont par rapport à n'importe quel constructeur automobile, c'est qu'ils ont déjà des stores partout, en fait. Donc, en gros, tu n'as même pas besoin d'exposer ta voiture. Tu peux vendre sur catalogue à un moment et tu as des magasins Xiaomi partout, en Chine évidemment, mais partout dans le monde, en fait. Donc, dès lors qu'après, ils veulent partir à l'international, c'est juste une ligne de plus dans ton logiciel et tu vends une voiture ou une trottinette ou un téléphone.
Alors, on a posé la question au patron de Xiaomi, quand est-ce que cette voiture serait disponible en dehors de la Chine? Pour l'instant, il a dit, c'est pas prévu, on va réfléchir, on va voir. Je pense qu'il essaie d'abord de bien s'investir sur le marché chinois, mais il n'y a pas de raison que cette voiture n'arrive pas un jour en Europe, pourquoi pas, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, souvent Xiaomi, c'est des pâles copies de ce que font, par exemple, les Américains. C'est pas vrai du tout. Ouais. Vous prenez, par exemple, le Xiaomi 14 Ultra, qui est le très haut de gamme qui vient de sortir, qui a été présenté au Mobile World Congress. Là, les premiers tests de journalistes tombent et il a un appareil photo qu'on n'a jamais vu sur un téléphone. Voilà. Donc, ils sont. C'est vraiment l'excellence aussi technologique.
Mais
c'est ça qui est intéressant.
Toutes les marques chinoises de smartphones, tu prends Oppo, tu prends Vivo,
c'est vrai.
Tu prends Huawei à l'époque. Maintenant,
ou Honor aussi.
Elles ont la réputation d'avoir copié. C'est vrai qu'au départ, elles ont copié l'iPhone ou Android, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, elles ont des capacités d'innovation beaucoup plus grandes. En tout cas, elles innovent peut-être un peu plus que les grosses marques. Et elles ne se contentent pas de recopier ce que font les autres.
Et puis, pour continuer dans l'analogie avec Steve Jobs, un des avantages du patron de Xiaomi, c'est qu'il a cette notion d'excellence. Effectivement, ce n'est pas juste de la copie qu'il veut faire. Mmh. Et aussi, il a une vraie qualité marketing et commerciale. Tu vois, je m'attends à un moment qu'ils fassent comme dans les mobiles avec les voitures, qu'ils fassent des drops avec des séries limitées, avec etc. où tout le monde se les arrache en fait et tu crées la rareté en fait et le désir effectivement. Ouais. Comme tu le fais aujourd'hui sur des téléphones ou d'autres
biens de consommation. Comme ils font plus trop ça, mais c'est au début c'est ça qu'ils faisaient.
Oui, mais c'est ce qu'ils risquent de faire aussi sur les voitures, tu vois. Donc ils sont très bons là-dessus.
Ils sortent toute une série modèle, bien sûr, de la plus puissante à la moins chère. Enfin voilà, il y a toute une gamme, tout ça est fait intelligemment. La plus puissante a 800 km d'autonomie, elle a une batterie de 101 kWh, c'est énorme pour une voiture électrique. Elle a 673 chevaux, c'est l'une des voitures électriques les plus puissantes du moment. Elle irait même, sur certains points, elle battrait la Porsche Taycan Turbo, qui était une référence. Vous vous rendez compte? Donc, au-delà de l'excellence technologique, il y a aussi la volonté de vouloir se mesurer à des étalons, on va dire, de vitesse, qui est la Porsche Taycan, quoi. C'est quand même incroyable. À suivre, on verra.
Décomplexé.
Complètement décomplexé, exactement, c'est le mot. Après, vu la taille de la voiture, ça va être compliqué de se garer dans les rues de Paris, je pense.
Je pense pas, c'est plus petit qu'une Model S, et ça doit être à peu près entre la Model S et le Model 3.
La Model 3, mais déjà la Model 3, c'est enfin en tout cas pour l'Occident, pour l'Europe, c'est compliqué, quoi.
C'est sûr.
Cette voiture. C'était le petit moment, qui fait rêver avec cette Xiaomi. On revient à ChatGPT. ChatGPT qui, bien sûr, a révolutionné, on le répète tous les soirs, énormément de secteurs, et celui d'éducation, forcément, qui ont été les tout premiers à utiliser ChatGPT en novembre 2022 lorsqu'il est sorti, ce sont les étudiants. Ben oui, parce que c'était quand même un truc hyper pratique pour faire les devoirs, pour corriger les fautes d'orthographe, etc., etc. Tant et si bien que certains profs, ont crié au scandale. Enfin, il y a eu tout un débat là-dessus, qui s'est un peu calmé. Sauf que, Salim, on commence à voir des études qui sortent et qui mettent en avant un truc qui est pas rassurant. Raconte-nous.
Alors, j'ai pas fait l'étude. Par contre, je trouve que c'est bien qu'il y ait des études qui commencent à sortir un an après, parce qu'on va essayer de parfaire les mêmes erreurs qu'on a fait avec les réseaux sociaux, où on a attendu très longtemps, n'est-ce pas, Monsieur Meta, enfin ex-Meta.
ça fight un peu quand même.
Non, mais c'est marrant parce que. Et comme sans doute toi aussi, mais quand j'étais chez Google, on avait accès à plein d'études, si tu veux. Et ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qu'on sait sur les réseaux sociaux, on le savait depuis 2015-2016, tu vois. Notamment, il y avait moi une étude qui m'avait vraiment sidéré, c'était la courbe qui montrait la corrélation entre les taux de suicide et sur les adolescents et l'usage des réseaux sociaux. Donc il y a un moment
alors que chez Google, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais vous avez
si, ils ont essayé le Google Plus. On avait essayé, mais ça n'a pas pris.
Je pense que les gens qui se sont suicidés sur Google Plus, c'est parce qu'ils attendaient justement de trouver un ami.
C'est exactement ça.
Mais moi aussi je clash un peu Sally parce qu'il est malin, mais de temps en temps il faut le remettre un peu à sa place.
Non mais bien sûr, mais bon, ça dit on en rigole, mais non mais c'est grave en fait.
Non c'est grave.
Ce que je veux dire par là, c'est que au moins, on prend conscience qu'il peut y avoir des répercussions. Et tu vois, c'est rigolo parce que j'en parlais avec pas mal de DRH là récemment sur la formation de leurs collaborateurs à l'IA. Et tu vois, on l'a vu aussi dans le rapport qui a été remis au président Macron. Il faut former massivement tout le monde à l'IA. Mais par contre, on oublie. Donc, on forme les gens d'un point de vue technique. Mais on oublie en fait quel est l'impact sur leur capacité cognitive, quel est l'impact sur leur taux d'attention, quel est l'impact sur vraiment ce que ça va faire par rapport à leur cerveau. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Moi, tu vois, quand ChatGPT, tu vois, on parle d'enfants, quand ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022, j'ai pris mes enfants dans mon bureau le 1er décembre et j'aurais expliqué. Et j'aurais dit, voilà, ça, il faut le voir comme une calculatrice. Tu t'en sers quand il y a vraiment un truc que tu ne peux pas faire, quand tu veux te dépasser. Mais il ne faut pas oublier que si tu dois faire 2 plus 2, il faut continuer à entraîner ton cerveau à faire 2 plus 2. Parce que si tu ne le fais pas, à terme, il ne saura plus le faire. Et c'est vraiment ça, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe avec...
Oui, mais ça dit, on ne peut pas faire le parallèle avec la calculatrice, justement. Et je pense qu'on avait ces mêmes discours dans les années 70 ou 80, quand la calculatrice est arrivée. Avant, les gars, ils faisaient l'opération sur un bout de papier avec une addition, soustraction, multiplication, etc. Mm-hmm. La calculatrice est arrivée, tout ça a disparu, si tu veux. Ça me fait penser aussi Attends, ça me fait penser aussi à un autre truc, c'est le téléphone portable et la mise en mémoire des numéros. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais on retenait tous les numéros de nos proches. C'est terminé maintenant. Oui. Tous les numéros sont là, et bon, on connaît peut-être le numéro de sa mère, de sa femme, etc., mais c'est tout. Et on se rend compte qu'il y a des choses qu'intellectuellement on faisait avant et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Est-ce que finalement on ne peut pas faire le parallèle avec ChatGPT ?
Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui tu es en train. Et tu vois, ce que tu dis sur les numéros de téléphone est important. Est-ce qu'il y a une valeur à te souvenir de chacun des numéros de téléphone ? Pas forcément.
Bah, c'est peut-être un exercice mémotechnique.
Non, mais tu peux faire un exercice sur d'autres choses, tu vois. Oui. Il y a aujourd'hui, et je le vois, j'ai des adolescents, ils ont des copains, et moi je pense, j'espère en tout cas, s'ils me regardent, continue comme ça, que je les ai bien éduqués par rapport à ça, mais quand tu n'as pas cette éducation, automatiquement ton réflexe quand t'es adolescent, c'est tu vas tout faire. Et il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est ça mon propos, en fait, de te dire. Quand je prenais l'exemple de la calculatrice, aujourd'hui, moi je vois même des adultes où tu vas leur dire, je sais pas, 7 fois 5. Ils vont prendre leur téléphone pour le faire. Et là, si tu arrives jusqu'à ce niveau-là, même dans la moindre rédaction...
Ça, je m'interdis à le faire. Voilà. Des fois, je réfléchis un peu. 7 fois 5, 35, ça va voilà, encore.
Ça va encore. Non, mais tu vois, j'exagère à peine. Et là, aujourd'hui, si tu te dis que pour la moindre rédaction, pour le moindre truc, tu vas faire appel à ChatGPT, déjà, c'est pas bon pour toi et c'est pas bon pour la planète, parce qu'il y a plein de choses que tu pourrais faire et t'as pas besoin d'autant de puissance de calcul.
Jérôme ?
Non, juste, moi, ça me fait penser... Moi, je suis la génération où j'étais au lycée quand Internet est arrivé, en fait. Et quand j'étais au lycée, j'avais des devoirs à faire, mais j'allais sur Internet et je faisais copier-coller. Hein. Donc c'est un peu la même chose.
Après, mais la honte, Jérôme. C'est pas possible.
Tu
copier-coller Wikipédia.
Bah, même pas, parce qu'il
n'y avait pas
à l'époque. Wikipédia encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ChatGPT, c'est juste que ça pousse plus loin ce qui existait déjà, en fait.
Ouais. Enfin, c'est Google Plus. Enfin, c'est Google Plus. Voilà.
Non, mais parce que Google Plus, arrête avec ça. Parce que, franchement,
c'est pour moi.
Tu remues tout le temps dans la plaie, quand même.
C'est de bonne guerre.
Il le fait exprès. En fait, je crois. Alexandre, pardon.
Non, pour moi, c'est un outil. Si ChatGPT est bon à un examen, c'est pas que ChatGPT est intelligent, c'est que l'examen est débile. Et pour moi, c'est ça que ça remet en question. C'est les examens où il faut juste régurgiter les choses, etc. Si, par exemple, on voit que certains examens, même pour le barreau aux États-Unis ou même de médecine, les LLM arrivent à passer, ça veut dire que les examens testent les choses qui sont complètement dépassées et qui sont pas bien structurées et qui ont rien à voir avec le pratique des médecins derrière. Et je pense que vraiment, pour moi, ChatGPT, c'est un outil, comme Google l'a été avant, comme le traitement de texte a été avant, comme un stylo où la règle de calcul l'a été avant. Et il faut juste adapter l'éducation et les examens à cet outil. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Et donc, de dire, par exemple, je vous donne une réflexion à faire, une rédaction. ChatGPT va vous dire ça. Je suis prof, je vous fais gagner 2 minutes, je vous donne l'output de ChatGPT. Critiquer ça ou aller au-delà. Voilà, donc
exactement.
C'est considérer que c'est disponible pour tout le monde. Apprendre à l'utiliser, parce que tout le monde va l'utiliser dans le travail plus tard. Et, mais c'est une nouvelle donne, et donc l'éducation doit évoluer avec.
Alors, juste pour qu'on remette, parce qu'on n'est pas allé au bout de notre histoire finalement, on parlait de cette étude qui mettait en avant, et c'est ça qui est intéressant, c'était ça l'actu en fait, hein, donc il y a une étude qui a été faite sur 494 étudiants universitaires, c'était aux États-Unis je crois, à qui on a dit, ben voilà, utilisez ChatGPT, etc. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que, en fait, il mémorisait moins bien les choses parce qu'il se servait tellement de ChatGPT que le cerveau était un peu... au soleil, quoi, à la plage. Et voilà. Alors, c'est vrai, c'est toujours sur des courtes périodes, ces études-là. C'est vrai que, il faut voir si véritablement ça a un impact ou pas, mais ça serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus.
Oui, mais si vous, moi, c'est marrant parce que je parle que de ça en ce moment en entreprise. Mmh. Il y a deux choses. Il y a utiliser une technologie et savoir pourquoi et comment tu utilises cette technologie. En gros, si tu veux la technologie, c'est du hard skills. C'est comment j'apprends à utiliser un outil. De l'autre côté, c'est du soft skills, c'est des compétences humaines, c'est qu'est-ce que ça développe chez moi. Et pour ton exemple est excellent. Tu vois, c'est refaire un petit peu ce schéma de pensée et de dire comment je critique. Et ça, on le sait depuis longtemps. Hein. Tu vois, notamment, on parle, je ne sais pas si vous connaissez les 4 C. Les 4 C, c'est donc ces 4 compétences clés du 21e siècle. Donc dedans, il y a la curiosité, communication, collaboration. Et en anglais, ça fait critical thinking. Donc pensée critique, c'est exactement ce que tu décris. Travailler ça, c'est des choses qu'aujourd'hui la machine ne sait pas faire. Et c'est ce vers quoi on devrait pousser. Mmh. Les étudiants, mais aussi tous les collaborateurs d'entreprise, avant même, et c'est moi ce que je dis, hein, tu vois, je fais des formations parfois, je leur dis, mais avant même d'apprendre à savoir prompter, utiliser l'IA, est-ce que ça fait, etc., développer vos compétences humaines, vos soft skills, pour pouvoir justement aller challenger cette IA et surtout continuer à travailler votre cerveau, parce qu'au final, sinon, tu te lobotomises, en fait.
Après, est-ce qu'il ne faudrait pas changer la méthode de ce que tu disais, finalement, la méthode pour juger si un étudiant a compris ou pas ce qu'on lui demande, non ? Parce que, finalement, on voit que ChatGPT arrive à gruger les examens. Il faudrait peut-être trouver des examens qui soient plus facilement... plus difficilement grugeable par ChatGPT.
Un examen, généralement, t'as pas accès à ChatGPT pendant tes examens, donc...
Ah, mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs qui se font maintenant à la maison, enfin voilà, puis un téléphone...
Ouais, mais si je peux me permettre, c'est intéressant, parce que tu vois, j'ai vraiment ces conversations avec mes enfants, mais est-ce que c'est grugé, pas grugé ? En fait, pour moi, et c'est là où je te rejoins complètement, c'est comment tu redesignes ton examen. Est-ce qu'aujourd'hui, un étudiant, si tu enlèves toute intelligence artificielle, qui apprend bêtement ses cours, qu'il les régurgite le jour de l'examen, qu'à tout bon, mais qui demain ne sait pas faire et ou ne s'en souvient plus, ça change rien en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment revenir à la base.
Parce que le schéma pédagogique actuel.
Exactement, c'est pour ça que ce que tu dis est complètement vrai.
Okay.
Vas-y, pardon.
Voilà, pour moi, c'est une opportunité justement de repenser.
C'est ça.
Alors c'est ambitieux, l'éducation, et notamment la mesure des compétences. Mais le plus important, c'est l'éducation en elle-même. Mais de toute façon, on aura cet outil plus tard.
Mais quel chantier titanesque pour
le. Oui, mais il était temps. Parce qu'en fait, on a toujours le même schéma d'il y a 50 ans. Donc,
pour repenser, c'est pas évident. Il nous reste 5 minutes, les amis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On a deux choix, et là, c'est comme vous voulez. Hein. On a Meta, alors je sais qu'Alexandre va prendre ce sujet, qui ajoute de l'IA à ses lunettes, et c'est assez intéressant, je trouve, parce que, voilà, c'est pas mal. Ou bien les réseaux sociaux au moins de 14 ans.
Ah, bah, interdit, il est important, celui-là.
Pour son ancien employeur.
On prend la Floride. Allez, la Floride.
Juste, il veut faire une phrase sur Meta. Avec les Ray-Ban, Meta est en train de réussir ce que Google a échoué avec les Google Glass.
Ils sont mignons tous les deux.
Après, il faut que les gens les achètent.
Voilà, c'est ça.
Bravo. Mais attention, parce qu'on a parlé de Xiaomi. Xiaomi arrive avec ses lunettes, t'as vu ? Ils veulent les sortir à $60. C'est pas les $300 de Meta.
Juste pour terminer avec ces lunettes Meta qui aujourd'hui ont des appareils photo, des caméras, des petits écouteurs, des micros, etc. Là, la nouveauté, c'est que vous êtes par exemple devant la Tour Eiffel et vous dites Meta, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Eh bien, vous avez la caméra qui va analyser la Tour Eiffel et va vous dire bah, c'est la Tour Eiffel, quoi.
Ouais, et là, il te dit t'es bête ou quoi ?
C'est ça. Oui, mais ça, évidemment, c'est un exemple un peu débile, sauf peut-être pour certaines personnes coupées du monde et qui ne savent pas trop ce que c'est, mais pour des choses beaucoup plus compliquées, ça peut être sympa.
Non, bien sûr. Mais t'as raison, c'est là où. Mais en fait.
C'est la reconnaissance.
C'était trop tôt, c'était il y a plus de 10 ans, tu vois. Donc c'était Google Glass, il y a plus de 10 ans.
Bon, ben voilà. Ça arrive. Ça arrive bientôt et c'est une mise à jour soft qui va arriver sur les derniers modèles de Ray-Ban Meta qui sont sortis.
Et vraiment, ils sont très bien en plus.
Ouais, elles sont cool. Elles sont très jolies en plus.
Ouais, c'est Ray-Ban.
Allez, on va en Floride. superbe état, bien évidemment, bien sympathique, mais qui a décidé d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 14 ans. En gros, alors je ne sais pas comment ils veulent faire, mais il y aura des vérifications et puis des sanctions fortes aussi auprès des réseaux sociaux en question s'ils ne respectent pas ça. C'est ça, hein,
Salim ? Oui, c'est la meilleure info du jour. Non mais c'est génial, tu vois, et il y a d'autres États américains qui sont en train de se mettre sur la liste justement pour interdire. Alors toi, je pense que tu vas pas être d'accord peut-être, mais encore une fois, là, on en parlait tout à l'heure.
Là, le petit rictus, je suis pas ça. D'accord, je vais tacler Salim.
Mais allons-y, et on va avoir un vrai débat, malheureusement on n'aura pas le temps, mais c'est hyper important. Tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure avec ChatGPT, et pourtant ça ne fait qu'un an, on est à 10-15 ans de réseaux sociaux et on connaît tous les méfaits des réseaux sociaux sur les adolescents et même sur d'autres. Et ça, aujourd'hui, de commencer à l'interdire, c'est une très bonne chose. Après, pour répondre à ta question comment, c'est assez simple finalement, parce que aujourd'hui, un adolescent ne sait pas ouvrir un compte bancaire. Donc, il y a des moyens coercitifs pour faire en sorte que si tu ne veux pas que quelqu'un utilise un service, tu peux très bien le faire, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Et là, encore une fois, on est dans de la protection, non pas juste des adolescents, mais de populations futures. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu casses leur attention, etc. Et surtout, dernière chose, et j'en terminerai là-dessus, si vous avez regardé les dernières phrases que des réseaux sociaux au Congrès américain, t'as quand même un Mark Zuckerberg, alors c'est la posture, mais il s'est excusé devant les parents qui étaient derrière lui, avec les photos des jeunes qui s'étaient suicidés à cause des réseaux sociaux. Donc il y a un vrai impact. Donc maintenant, explique-moi pourquoi il ne faut pas les... t'es d'accord alors.
Non, mais qu'on réfléchisse à limiter ou à interdire, je ne sais pas, mais au moins limiter l'utilisation par les adolescents, pourquoi pas. Après, c'est une question pratique. Déjà, aux États-Unis, il y a le premier amendement qui va passer par là et qui va certainement annuler la loi.
Pourquoi ?
Liberté d'expression, c'est pas la loi américaine. Hein. Moi, je dis pas que c'est bien ou pas. La loi américaine dit que le gouvernement ne peut pas décider si tu peux utiliser un service ou pas. Oui. Et c'est pour ça que TikTok.
Parce qu'à chaque fois qu'un État a proposé ce type de loi, elles ont été attaquées en justice.
Par le premier amendement. Mais là, il commence à y avoir un vrai consensus.
Et ensuite, juste pour dire, aujourd'hui, légalement, tu peux pas utiliser Facebook, tu peux pas utiliser Instagram si t'as moins de 13 ans aux États-Unis, parce qu'il y a des lois sur la protection des enfants de moins de 13 ans aux États-Unis. Et c'est légal, mais ils ne veulent pas gérer tout ça. Mais ça n'empêche pas les enfants de moins de 13 ans d'utiliser le Facebook.
Ils changent leur date de naissance.
C'est ça qui est intéressant.
Oui, mais après, comment tu vérifies? Parce que tu dis 14 ans, d'accord, mais 15 ans, tu n'as pas forcément de carte bancaire. Tu as le droit d'utiliser 15 ans avec l'autorisation de tes parents. Qui va vérifier? Est-ce que... Parce qu'en fait, il faut dire, la loi, elle est plus que sur les réseaux sociaux. Il y a plein de sites. Tous les sites où il y a des contenus un peu...
Sensibles,
devront vérifier. C'est-à-dire que... Et donc, les adultes devront aussi vérifier leur identité.
Bien sûr, mais les adultes, ils feront enfin leur travail.
Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a la même chose sur les sites pornographiques au Royaume-Uni. Ça fait des années que ça a été voté, la loi. Il n'y a toujours pas de solution pour que ça soit mis en place. Donc, tant qu'il n'y a pas de solution technique qui convienne à tout le monde, ça ne pourra pas passer.
Alex,
de toute façon, ils arriveront à le contourner et à le hacker, mais au moins, ça la fermera à hacker les choses. Ça sera peut-être...
Non, mais encore une fois, c'est là où je diffère là-dessus, pardon, mais... C'est comme l'alcool. Tu ne peux pas empêcher un jeune d'aller boire de l'alcool. Par contre, tu as le droit de l'interdire. Mmh. Et si tu ne fais pas au moins cette première barrière, c'est, comme on dit, la porte ouverte à toutes les fenêtres.
C'est la posture, en fait. C'est la posture.
C'est pas que de la posture. Ça limite un peu. Et je préfère limiter un peu que laisser la porte ouverte. Voilà, c'est tout.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Salim Nassur, fondateur de Mars et ex-Google. Merci Alexandre Lebrun, cofondateur et président de Nabia et ancien de chez Meta. Et merci à Jérôme Marin. Toujours un plaisir de te recevoir, Jérôme, fondateur de la newsletter Café Tech. newslettercafetech.fr, on peut s'abonner, bien sûr. Et tu distilles toute l'actualité tech. Quel est le rythme, en fait, de la...
J'essaie de faire 4 fois par semaine.
Pas mal.
Ouais, bah oui, des fois c'est 3, mais j'essaie de faire 4 fois par semaine.
Allez voir un peu cafetech.fr. Merci beaucoup. Vous restez là, Tech & Co. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec au menu pour notre dernière demi-heure de la 5G dans les futurs métros parisiens. Un travail pharaonique, incroyable, qui va s'étaler jusqu'à 2030. Je recevrai le patron de Totem qui s'occupe de l'installation de tout ça. Et puis Microsoft qui veut former les Français à l'IA. Et on recevra le monsieur IA de Microsoft sur ce plateau dans quelques minutes. Voilà le programme, vous restez avec nous. D'autant que dans une minute, c'est Léa Benaim qui nous rejoint pour le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de la Cultech de ce jeudi soir. Merci d'être là, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Dans un instant, je reçois Thierry Papin, le directeur général de Totem France, qui va nous expliquer comment, dans quelques années, nous aurons de la 5G partout dans les métros du Grand Paris. Mais auparavant, ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce jeudi soir, c'est en quelques minutes et c'est avec Léa Benahi. Bonsoir Léa.
Et bonsoir François, bonsoir à tous. Aux États-Unis, chaque agence fédérale doit embaucher un responsable IA. Nouvelle directive du gouvernement annoncée par la vice-présidente Kamala Harris. Objectif, garantir que l'utilisation de l'IA dans la fonction publique reste sûre. Le ministère de la Justice est le premier à faire ce pas en embauchant un certain Jonathan Mayer, un informaticien, professeur à Princeton et doctorant de Stanford. Au total, 100 professionnels de l'IA vont être recrutés d'ici cet été. Et toujours aux États-Unis, la ville de New York va accueillir des robotaxis à une condition, un chauffeur doit toujours être à bord. Les robotaxis sont pourtant sur la sellette dans le pays, comme par exemple à San Francisco où la ville a fait volte-face avec Cruise. New York tente, elle, de devancer le problème en décrivant ce qu'elle appelle un programme d'autorisation rigoureux. Cette technologie arrive, que cela nous plaise ou non, a déclaré le maire de la ville. LinkedIn marche sur les plates-bandes de TikTok. Le réseau social teste un nouveau flux de vidéos courtes en vertical, mais pas d'animaux ou de maquillage. Ces vidéos resteront dans l'ADN de LinkedIn. Elles seront axées sur des conseils professionnels et des portraits de carrière. Cette nouvelle fonctionnalité a été repérée par des utilisateurs, mais encore en phase de test. Tout le monde n'y a pas encore accès. Avec ses 1 milliard d'utilisateurs atteints l'année dernière, LinkedIn cherche à tout prix à garder sa bonne dynamique. Et du côté des GAFAM, Apple ne démord pas et réfute chacune des accusations du ministère de la Justice. Le géant considère qu'elles sont une menace pour son identité. Dans un communiqué qu'a pu consulter Apple Insider, l'entreprise assure n'avoir jamais découragé de développeurs ni bloqué de services de cloud gaming. Et concernant l'intégration de l'Apple Watch, elle assure que traiter tous les systèmes d'exploitation relève de l'impossible, avant de conclure que si les utilisateurs ne vont pas chez la concurrence, c'est qu'ils apprécient ces produits. Et justement, Apple, l'un des sujets forts cette semaine dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous de la tech du week-end avec François ici présent. Rendez-vous demain à midi pour un nouvel épisode donc en podcast audio sur BFM Business et en vidéo sur la chaîne YouTube. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Moi, c'est une conséquence logique de la grandeur de l'entreprise aujourd'hui. Le Apple de 2024 n'est pas le Apple de 2010 et c'est devenu une super entreprise géante qui doit tout calculer sur 4 ou 5 ans en avance parce que les chaînes logistiques sont hyper importantes et qui doit contrôler justement tout ce mécanisme-là. Ce que je trouve intéressant, alors ça n'engage que moi, c'est que je comprends les motivations du Digital Markets Act européen. Je comprends pourquoi on veut réguler les géants de la tech, pourquoi on veut mettre ce cadre, mais je comprends beaucoup moins là où veulent aller les États-Unis. Déjà parce qu'ils ciblent une seule entreprise, on ne parle pas d'une régulation, mais on parle d'un procès à l'encontre d'une entreprise, et parce que les choses qui sont reprochées par le département de la justice américaine, parfois ça frôle un petit peu
la mauvaise foi,
pas le complotisme, mais oui, une forme de mauvaise foi. C'est vraiment l'idée que les gens, enfin, à en lire, il y a un document de 88 pages qui a été publié.
Qui est assez sévère d'ailleurs. Hein.
C'est très sévère. Il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, quand on dit il y a des choses que l'Europe n'a pas abordées, qui sont comment se fait-il que l'Apple Watch ne fonctionne pas sur Android et pourquoi les autres montres n'ont pas accès aux mêmes fonctions que l'Apple Watch sur iPhone. En effet, peut-être que c'est intéressant, peut-être qu'il y a une piste à étudier là-dessus.
Voilà, Nicolas Lelouch, l'un des intervenants de De quoi je me mêle demain, que vous retrouvez, Léa nous le disait, dès midi, en podcast audio. Il suffit de s'abonner, évidemment, pour le recevoir, sur l'appli BFM Business, mais aussi sur la chaîne YouTube de Tech & Co, et ce week-end, donc, diffusé sur BFM Business, à la radio, à la télé. Il est temps de nous intéresser à ce fabuleux challenge que d'avoir de la 5G partout, dans les tunnels du Grand Paris, avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et j'accueille Thierry Papin. Bonsoir Thierry.
Bonsoir François.
Vous êtes le directeur général de Totem France. Et avant de rentrer dans le détail de ce qu'est Totem, on va vous expliquer ce qui va se passer. Parce qu'il va falloir attendre 2025 pour se connecter en 5G dans le métro. Mais pas dans le centre de Paris, mais sur en fait la partie sud de la future ligne 15 du Grand Paris Express. La couverture mobile sera assurée donc par Totem. C'est une filiale d'Orange. Léa Benahi nous explique tout ça et on revient avec Thierry Papin juste après.
Cette promesse est un véritable défi technologique. Elle vise une connexion Internet fiable et continue à 30 mètres sous terre. 33 km de rames à couvrir, 1000 émetteurs 4G et 5G le long des 16 gares. Objectif, aucune coupure de réseau lorsqu'un usager descend dans les entrailles de Paris. Dans un contexte où la connectivité en milieu clos est de plus en plus cruciale, avec des parois en béton imperméables aux ondes, Totem relève le défi technique avec de grandes attentes du côté des Franciliens, comme nous l'explique Thierry Montalan, responsable du numérique au sein du Grand Paris Express.
C'est 3 millions de voyageurs par jour, ne serait-ce que sur cette ligne 15, c'est potentiellement 1 million d'habitants qui prendront quotidiennement ce moyen de transport. Il était pour nous une évidence et c'était notre ambition de pouvoir apporter à l'ensemble de ces voyageurs une continuité numérique, digitale.
Entre fin 2025 et 2030, 4 nouvelles lignes de métro automatiques vont être mises en service. Il s'agit là du plus grand projet de transport et d'urbanisme en Europe. Initialement évalué à 19 milliards d'euros, il devrait finalement coûter autour de 35 milliards selon la Cour des comptes.
Alors ça représente 33 km de tunnels, je pense, enfin de lignes en tous les cas, voie. 16 gares, enfin c'est un travail titanesque. Thierry Papin, rebonsoir, je le disais, directeur général de Totem France, c'est vous qui installez tout ça, est-ce que vous pouvez nous présenter Totem, qui est une filiale d'Orange je crois hein.
Absolument, Totem est une filiale qui a été créée en fin 2021, donc on a bientôt 2 ans d'existence, et c'est une filiale qui porte le doux nom de TowerCo. Alors, je suis navré, il n'y a pas de traduction française, Tower Company, mais pour le résumer très simplement, on est une société qui finalement gère les actifs issus d'Orange, qui sont les infrastructures qui permettent aux opérateurs mobiles de déployer leurs équipements. Pour faire simple, c'est en particulier les pylônes que l'on voit dans nos campagnes.
Pas la fibre ?
Pas la fibre, non.
D'accord. Et donc, vous vous attelez à ce chantier incroyable. Je le disais, des dizaines de kilomètres de lignes à équiper. Et donc, votre job, c'est d'installer la 5G dans ces tunnels. On sait qu'à l'époque de l'installation de la 4G dans le métro, ça avait été toute une pagaille parce qu'il a failli. Enfin, c'est un chantier qui avait pris des années et des années, qui avait eu énormément de retard, hein, pour des raisons diverses. Hein, évidemment, c'est bien sûr, ça va suivre la construction de ce Grand Paris, hein. De 2025 à 2030, c'est ça, votre calendrier à peu près ?
Alors absolument, le 2025, c'est l'ouverture de la première ligne, cette ligne 15 Sud, ce premier tronçon, qui va se poursuivre jusqu'en 2030 avec 2 tronçons Est et Ouest qui vont permettre de faire tout le tour de Paris, 75 km de voie à la cible, avec ce besoin là aussi sur l'ensemble de la ligne d'avoir cette connectivité 4G et 5G pour la continuité des usages des clients, des opérateurs.
Est-ce que c'est compliqué d'installer de la 5G à 30 mètres de profondeur ?
Alors c'est pas tellement la profondeur. La profondeur, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Elle nous apporte une isolation complète du réseau au-dessus. Donc ça veut dire que le challenge.
Rien ce qu'il y a au-dessus déjà.
Absolument. Donc ça veut dire que le premier challenge, c'est d'apporter une couverture à partir de rien. Donc ça, c'est un premier niveau de complexité. Après, la vraie complexité, elle est liée, vous l'avez dit, à la longueur de voie, 33 km. Il va falloir assurer la continuité des services pour 4 opérateurs sur la 4G et la 5G, sur toutes les fréquences dont ils disposent, sur ces 33 km et dans les gares, et finalement faire en sorte que n'importe quel client de n'importe quel opérateur fasse tout son chemin du matin pour aller travailler jusqu'au soir en rentrant avec une continuité de service très haut débit. Il faut quand même préciser que tout ce qu'on met en œuvre permettra de faire du 1 gigabit par seconde, donc du très haut débit mobile. C'est l'équivalent d'un accès fibre chez vous qui sera disponible à 30 mètres sous terre, à 110 km/h, vitesse de pointe en tout cas de ces véhicules,
sans
et
coupure.
À 1000 passagers à chaque fois, sans coupure. Voilà. C'est ça le challenge. Et donc la vraie complexité, la première vraie complexité, c'est celle-ci, c'est d'ordre technique, voire technologique. Comment assurer cette continuité de service sur l'ensemble du réseau ? Comment faire en sorte que on puisse entretenir ce réseau aussi dans le temps. Les trains vont circuler. Pour l'instant, la chance, quelque part, qu'ils ne soient pas encore là.
Oui,
on peut travailler.
Vous êtes tranquille.
Alors, tranquille, pas vraiment, parce que vous voyez les travaux que ça génère. Et il faut. Et ça, c'est la deuxième complexité. C'est aussi de s'adapter à ce chantier titanesque qui est la construction d'une nouvelle ligne.
Tous les corps de métier qui s'enchaînent.
Absolument. Voilà. Et nous ne sommes qu'un petit projet au sein de cet énorme projet qu'est la ligne 15. Et on travaille avec la Société des Grands Projets, justement, pour articuler finalement toutes les contraintes qu'ils ont à gérer, dont celle pour nous de venir installer ces équipements mobiles.
ce qui est intéressant, c'est que vous disiez que vous étiez une filiale d'Orange, mais vous allez installer tout cela pour tous les opérateurs mobiles.
Absolument. La raison pour laquelle Orange a filialisé finalement cette activité, c'est justement pour garantir une neutralité, un traitement équitable de l'ensemble des opérateurs. Et c'est un rôle de neutralité auquel on tient beaucoup. Et donc on fait effectivement particulièrement attention à servir tous les opérateurs et d'entendre tous les opérateurs, d'écouter tous leurs besoins pour les rendre, y compris dans ce domaine.
Et qui paye là, en fait ? C'est tous les opérateurs, justement ?
Eh bien, non,
partage d'addition, c'est
nous qui,
Paris.
C'est nous qui payons, non, non. C'est Totem qui investit, donc c'est le principe d'un investissement et qui après est mis à disposition, voilà, sous forme d'une location aux opérateurs dans la durée. Donc ça leur évite aussi d'avoir un pic d'investissement très important, et c'est plutôt notre rôle, et c'est ça finalement d'être un gestionnaire d'infrastructure.
Et même Orange louera ces infrastructures, ou étant donné que c'est une filiale, ils auront, on va dire, un accès particulier ?
Non, il n'y a pas d'accès particulier. Orange louera effectivement dans les mêmes conditions que les autres opérateurs, et tout ça est auditable dans nos comptes, et donc on pourra facilement le vérifier.
Il n'y a pas de problème. Concrètement, ça veut dire qu'il faut des émetteurs tous les combien là, parce qu'on sait que, bah, par exemple, dans une ville, il y a des endroits où il faut beaucoup d'émetteurs. Dans la campagne, il en faut un petit peu moins. Là, dans les tunnels, c'est comment ça marche en fait?
Alors, les tunnels, vous avez raison, c'est très particulier. Alors, d'abord, ce sont pas les mêmes antennes que celles qu'on va trouver à l'extérieur.
D'accord.
On a deux types d'antennes, hein, finalement. Il y a celles qu'il faut mettre dans les tunnels et celles qu'il faut mettre dans les gares. Pourquoi? Parce que dans les tunnels, vous voyez bien, ce sont des, alors c'est pas tout droit, mais ce sont des grandes distances, et donc on va plutôt mettre des antennes qui vont, c'est un peu comme la lampe torche, quoi. Il va falloir éclairer devant et éclairer derrière. Donc on met deux lampes torches de chaque côté, un point d'émission, et on va mettre ça tous les, en moyenne, 250 mètres. Alors pourquoi 250 mètres ? On s'est calé plutôt sur une ingénierie 5G, donc c'est-à-dire que la vraie contrainte, ce sont les fréquences les plus hautes, celles de la 5G, et qui nous amène finalement à resserrer l'espacement entre ces différentes antennes pour garantir cette continuité que j'évoquais tout à l'heure, quoi. Donc 250 mètres, ça fait 126 points d'émission, si on veut être précis, sur l'ensemble des 33 kilomètres, et un point d'émission, c'est 4 antennes. Voilà, donc ça fait plus de 1000 équipements, rien que dans les tunnels, et encore une fois, installés de manière synchronisée avec les travaux du Grand Paris. À date, puisqu'on a commencé en janvier, hein, on a annoncé le lancement de ce projet très concrètement en janvier, et on est déjà à plus de 20 points d'émission sur les 126 qui sont en place.
Ça marche déjà ? Vous faites déjà des tests ou...
Alors non, on ne fait pas de tests encore. L'idée, c'est plutôt d'aller déployer toute l'infrastructure cette année, en 2024. Donc ça nous prendra toute l'année pour suivre, encore une fois, les chantiers du Grand Paris. Et on a toute l'année 2025 pour faire les tests avec les opérateurs et avec la société des grands projets, puisqu'il va s'agir également de vérifier que tout ce que l'on fait ne vient pas perturber leur propre système, et en particulier, bien évidemment, les systèmes de sécurité des trains. Vous savez que ce sont des trains autonomes, et donc il ne s'agit pas de prendre le moindre risque. Et donc on aura un an de rodage pour assurer que dès le premier jour de la commercialisation de cette ligne, on sera présent avec les opérateurs et leurs services.
Voilà, tout ça est prévu fin 2025.
Hein, fin 2025, ouverture de la ligne. La ligne 15 Sud, voilà, le tronçon sud de la ligne 15.
Je dis peut-être une bêtise, Thierry Papin, mais pourquoi, au lieu de mettre les émetteurs à l'extérieur, dans les tunnels, pourquoi on ne les met pas à l'intérieur, dans les trains ?
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de technologie qui soit...
On est d'accord, ça serait plus simple pour tout le monde. Vous auriez une antenne, en fait, qui resterait statique, finalement, puisqu'elle serait dans le train.
Alors oui, ça peut paraître plus simple, on va dire, pour le dernier tronçon, mais cette antenne qui serait sur le train, il faut bien la connecter à quelque chose. Et on a toujours ce sujet de 110 km/h et de 1000 passagers. Donc non, les technologies d'aujourd'hui, les plus adaptées, sont celles que l'on déploie, qui s'appellent des systèmes d'antennes distribuées, qui portent bien leur nom, puisqu'on les distribue tout le long du parcours et dans toutes les gares.
Donc il y a les tunnels, mais il y a aussi les lieux d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gares en fait qui sont en profondeur, hein, donc en sous-sol. Là aussi, vous vous occupez de produire en fait cette 5G, même on va dire en dehors des rames.
Absolument. Pour garantir cette continuité, on va faire une couverture qu'on appelle, là aussi en anglais, désolé des termes, mais indoor, hein, c'est-à-dire qui est vraiment adaptée aux lieux fermés. Et là, on va mettre des antennes assez différentes parce qu'on est plus près du public, c'est beaucoup plus distribué. Et vous parlez de profondeur, si on prend je crois que la station la plus profonde est celle de Villejuif, une des stations de Villejuif, qui est, à ma connaissance, de l'ordre de 60 mètres, avec donc beaucoup d'étages pour sortir. Et tous ces étages vont être couverts, de sorte que le parcours d'un passager qui descend du train à Villejuif et qui ressort à l'extérieur soit garanti tout le long. Quoi.
L'idée, c'est que même je passe un coup de fil, je suis à l'extérieur, je vais au fond, à 60 mètres de profondeur, mon appel n'est pas coupé. Quoi.
Absolument. Et ça, c'est le vrai enjeu. Et la coupure, c'est un peu du stop ou encore, mais vous avez aussi un sujet de débit, puisque beaucoup de clients aujourd'hui utilisent la vidéo, jeux. Donc il faut aussi du débit au-delà de la seule continuité de couverture. C'est ça l'enjeu, effectivement.
Dernière petite question, toute cette connectivité ultra rapide ne serait pas possible sans la fibre. Ça veut dire qu'en même temps que vous installez tous ces émetteurs, il y a la fibre qui passe aussi dans tous les tunnels?
Absolument. Donc ça, c'est plutôt la société des grands projets qui en assure le déploiement. Ils nous mettent
vous
à disposition.
Connectez à cette fibre.
Voilà, ils nous mettent à disposition. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Cette fibre va au plus près, finalement, de nos émetteurs qui eux-mêmes sont collés aux antennes. Du coup, c'est très efficace puisque finalement, on a une distribution fibre optique jusqu'au plus près de l'antenne. Absolument. Et c'est très évolutif. Ça veut dire aussi que dans le futur, dans les 10-15 ans qui viennent, on pourra continuer à construire sur cette infrastructure.
Voilà. Et à noter qu'en plus de cette connectivité 5G, il y aura une connectivité Wi-Fi partout, dans le Grand Paris.
C'est ce qu'a annoncé la société du Grand Paris, en effet, la société des grands projets.
Voilà. Donc il y aura deux modes de connectivité, peut-être même un mode de secours au cas où, le Wi-Fi qui sera totalement gratuit et à la fois dans les rames, mais aussi dans les gares.
Alors, il n'y aura pas besoin de système de secours pour ce qui nous concerne, puisqu'on a tout doublé.
Ah oui.
J'ai pas précisé ça, mais voilà, on a tout doublé. Donc on garantit aussi que, quel que soit l'incident, on a quand même toutes les garanties que le service continue à fonctionner.
Merci beaucoup Thierry Papin.
Merci à vous de votre
accueil. Très intéressant tout cela, directeur général de Totem France, pour cette promesse de la 5G partout dans les futurs métros parisiens du Grand Paris. Merci beaucoup. Merci. Et direction tout de suite la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Pierre Bergessia est avec nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Alors, journaliste à la rédaction de Tech & Co, et l'intelligence artificielle continue de faire avancer la médecine, Pierre. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors pourquoi ? Parce que des chercheurs californiens sont parvenus, écoutez bien, à créer un patch biotechnologique qui permet de donner une voix à ceux qui ne peuvent pas l'utiliser.
Exactement. Hier, je vous parlais sur ce plateau, déjà, d'intelligence artificielle. On était dans le domaine du divertissement avec YouTube. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre type d'intelligence artificielle, celle dans le domaine de la santé, une IA, donc, qui permet de retrouver sa voix, la voix. Eh bien, en plus, je vais vous dire un truc, c'est que ça a marché à 95%, en tout cas pour le petit échantillon de patients qui ont testé ce patch. Mm-hmm. Et vous allez me dire, certes, bon, le patch, c'est bien, Pierre, mais il existe déjà un pléthore de dispositifs qui permettent de retrouver la voix. Eh bien, certes, on va être honnête, ils sont souvent pas très jolis. Mm-hmm. Des fois, ils font mal aux patients, ils sont douloureux.
Oui, c'est vrai.
Et surtout, ils sont très chers.
Oui, c'est clair. Mais alors, comment ça marche, ce dispositif? On a du mal à imaginer vraiment comment ça peut fonctionner.
Alors, concrètement, ça se présente sous la forme d'un patch, donc à peu près de la taille d'un patch anti-tabac.
D'accord.
C'est pas lourd du tout.
Comme un sparadrap, quoi, un truc comme
exactement.
Ça.
Exactement. Ouais. C'est pas lourd du tout en plus, ça pèse 7 grammes.
Okay.
Et c'est composé donc de micro-aimants qui bougent et créent un champ électromagnétique. Alors, du coup, ça se fixe juste en dessous de la gorge, okay, sur le larynx.
D'accord.
Et quand le larynx bouge, eh bien, les micro-aimants vont créer un signal électrique. Et ce signal électrique, eh bien, il va être interprété par l'IA et en fin de compte, en une phrase audible comment ? Par les petits haut-parleurs qui sont intégrés au dispositif, carrément.
C'est incroyable, en fait, ouais, la miniaturisation de ce patch, c'est complètement fou. Est-ce qu'il y a d'autres avancées concernant les sciences et l'IA, justement ?
Alors oui, ça me fait penser à une étude qui est parue en octobre dernier.
Ouais.
C'est une étude qui explique que l'IA peut permettre de détecter des maladies. Alors, d'une manière, je ne vais pas vous faire un quiz, c'est très compliqué, vous ne le trouverez jamais. L'IA permet de découvrir des maladies grâce à des extraits audio de notre voix, de 6 à 10 secondes seulement.
Wow.
Voilà. Alors, comment on peut se poser la question ? Eh ben, c'est par les fréquences que l'on ne peut pas entendre à l'oreille humaine. Et alors, on pourrait croire à une fumisterie, pas du tout. Ça marche très bien, surtout dans la détection de maladies comme le diabète.
Incroyable, simplement en analysant la voix. C'est fou.
Exactement.
Merci beaucoup Pierre Bergessia, journaliste donc à la rédaction de Tech & Co, article que vous pouvez retrouver bien évidemment sur la page web de Tech & Co. 21h20, on reste dans l'IA, tiens, puisqu'on y est bien, on y reste.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
J'accueille Henrik Lopez qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Henrik.
Bonsoir.
Directeur IA et impact social de Microsoft France. Pour nous parler de cette initiative hyper intéressante de « À vous l'IA ». Parce que Microsoft veut démocratiser l'adoption de l'IA. Et vous avez mis en place tout un système de formation qu'on va évoquer. Mais vous avez, par la même occasion, élaboré une petite étude sur les Français et l'IA. Elle est plutôt intéressante, cette étude, je crois.
Oui, c'est assez intéressant parce qu'on voit que l'IA, depuis 18 mois, avec l'arrivée de ChatGPT, ben, elle est là. À plus de 70%, on a des Français qui ont pris en main ces outils.
73% exactement, c'est fou. Hein.
Et qui, effectivement, l'ont dans la vie tous les jours. Donc ça, c'est une étude qu'on a lancée. Ce qui est intéressant, moi, j'ai envie de regarder... alors, souvent, je regarde le verre d'eau à moitié plein. Là, je vais regarder un petit peu le verre d'eau à moitié vide, si vous me permettez. L'étude de la BPI, qui est sortie le 15 mars, et qui, là, par contre, dit qu'il n'y a que 3% des dirigeants de PME qui utilisent l'intelligence artificielle générative.
Et, ça, c'est surprenant comme chiffre.
Parce c'est que surprenant.
Non seulement c'est pas beaucoup, mais je pensais qu'il y en allait en avoir un petit peu plus.
Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder le pourquoi. Et on est dans l'ordre de 71% à 72%. C'est « j'ai pas les compétences » ou « j'ai pas encore trouvé le cas d'usage dans mon entreprise ». Donc si ça rentre, on est en train de vivre ce côté, on va dire... Passez-moi l'expression de consumérisation, c'est-à-dire dans sa vie de tous les jours, on a ces outils d'IA générative, on a envie de les avoir dans son activité, on commence à l'utiliser dans des activités, mais sur les petites organisations, bah, c'est pas encore ça.
Alors ce qui est intéressant, c'est que ce programme à vous l'IA, je trouve, résonne avec le rapport de l'IA qui a été remis au gouvernement. Vous avez peut-être suivi, l'une des premières recommandations de ce rapport, c'est la sensibilisation et la formation concernant l'IA, c'est ce que vous faites, finalement. Est-ce que c'est une initiative française? Parce que Microsoft, évidemment, vous êtes partout dans le monde. C'est franco-français, cette alternative à vous?
Oui et non. Je dirais que non, parce qu'on a lancé une initiative sur les compétences autour de l'intelligence artificielle depuis au niveau international depuis plus de 12 mois, avec des contenus gratuits en ligne et le premier cursus professionnalisant, si je puis dire, sur LinkedIn Learning sur l'IA générative. Des petits modules en 2-3 heures, où on va comprendre l'IA générative, on va avoir les notions d'IA responsable, etc. Mais on a, nous, décidé en France d'aller un cran plus loin, c'est de se dire on fait un mouvement sur la partie sensibilisation, formation, on va ajouter ce qui manque un petit peu, parce que 3 heures de formation c'est bien, mais peut-être que pour certains individus, juste du micro-learning c'est suffisant. Donc travailler avec une EdTech comme par exemple Kokoroé, pour avoir du contenu hyper fun, didactique, pour en 10-12 minutes comprendre ce que c'est que l'IA générative, c'est peut-être suffisant, mais aussi des tutoriels avec d'autres acteurs, en l'occurrence notre écosystème, on a Mandarin Academy, mais on en a d'autres, et puis le contenu LinkedIn Learning. Donc ça, c'est le module, on va dire, de sensibilisation, formation, et ça, c'est une démarche franco-française.
Alors, avec un objectif quand même ambitieux, hein, de former 100 000 Français à l'IA générative cette année, en 2024.
Oui.
Comment faites-vous donc avec tous ces petits modules, justement, qui sont accessibles gratuitement? Comment ça marche? Je vous écoute là en ce moment, je me dis, bah voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur l'IA. Qu'est-ce que je fais?
Bah, déjà, on peut aller sur la plateforme. Donc, vous tapez aka.ms/avoulia, tout attaché, ou vous cherchez dans votre moteur de recherche préféré avoulia.
Ça marche que sur Bing ou ça marche aussi sur Google?
Ça marche sur les autres. Et là, vous allez tomber sur un portail et vous avez la partie sensibilisation qui est bien mise en évidence avec du contenu justement qui est là et qui est gratuit pour comprendre ce que c'est que l'IA générative. L'IA générative dans les organisations, parce que tout le monde a entendu parler de ChatGPT, mais est-ce que tout le monde sait ce qu'on peut utiliser comme outil dans l'environnement professionnel? Qu'est-ce que tout le monde a bien compris, comment on prompte, etc. Mais ça, c'est en ligne, mais on va compléter avec un écosystème de partenaires par des actions ponctuelles, régionales, dans toute la France, avec des prompt académies, avec des ateliers, un certain nombre de choses. Ce qui est surtout intéressant, c'est l'étape d'après. Parce que quand on a formé 100 000 personnes, 100 000 individus, c'est bien. On a rendu, surtout si on s'adresse à des professionnels ou des futurs professionnels, quand je dis futurs professionnels, je pense aux étudiants, je pense aux chercheurs d'emploi. Mmh. Au passage, ces contenus sont accessibles via l'Emploi Store de France Travail, gratuitement également à tous les chercheurs d'emploi.
Et pourquoi vous dites 100 000 ? C'est-à-dire qu'au bout du 100 000... Hein, ça s'arrête ou est-ce que ça peut être plus ?
Ça va être largement plus.
Ok.
Mais
c'est un minimum 100 000. C'est ça.
Pour l'instant, c'est ce qu'on a annoncé.
C'est notre target,
et je pense qu'on fera beaucoup plus avec l'ensemble de l'écosystème. On lance un mouvement. Mm-hmm. Mais une fois qu'on a lancé la formation, l'idée, c'est d'avoir effectivement, on va dire, des employés, des collaborateurs, des dirigeants qui ont compris et qui ont envie de se lancer. Et c'est l'étape d'après qui compte. C'est d'accord, j'ai compris, mais comment j'y vais et qu'est-ce qu'il y a pour moi dans mon organisation en termes de cas d'usage ?
Je suis un petit peu méchant, Enric Lopez. Je me dis, si c'est Microsoft qui fait ça, est-ce que c'est pour qu'après, on adopte vos solutions d'IA, OpenAI, ChatGPT, Copilot sur Office 365 ?
Bah, y a quasiment tous les contenus qui sont d'abord agnostiques. Et puis après, effectivement, quand on prend en main, il faut prendre en main des outils. Or, les outils, ça peut commencer par Copilot, qui est gratuit et qui est en ligne. Je parle de celui qui est accessible via Edge, Bing, etc. Après, dans les suites collaboratives, libre aux entreprises de choisir les outils qu'ils préféreront. Là, en l'occurrence, l'important, c'est de comprendre les usages et d'avoir une bonne compréhension de ce qu'on peut en faire pour après se lancer et aller dans l'étape d'après.
On va terminer, il nous reste quelques secondes. La dernière étape, ça sera à Vivatech, où vous allez dévoiler un recueil des meilleurs cas d'usage parmi tous ceux qui auront émergé durant ces premiers mois de formation, c'est ça ?
Eh ben en fait, c'est l'étape de fin, et l'étape du milieu, c'est surtout de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est des idéatons, c'est des hackathons. Par exemple, et pour toutes les organisations, pour des associations, on l'a fait avec la Fondation Accenture, on l'a fait avec Simplon. Pour des startups à impact, on l'a fait il y a deux jours au premier étage de la Tour Eiffel à ChangeNA avec plein de partenaires. Pour des jeunes femmes et des jeunes étudiantes, on vient de le lancer ce soir avec EY, des hackathons, pour justement se dire, pour ces entreprises, en toucher une centaine de PME, plusieurs centaines d'organisations, de se dire, mais oui, c'est ça le cas d'usage que j'ai besoin de mettre en œuvre parce que ça va améliorer ma productivité ou mon business.
À vous l'IA, donc, une initiative à saluer que vous pouvez retrouver donc, eh bien, tout simplement sur Internet avec ces formations gratuites. Merci beaucoup, Enric Lopez.
Merci beaucoup.
Directeur IA et Impact Social de Microsoft France pour clore ce Tech & Co de ce jeudi et cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve non pas lundi, ce sera un best-of de Tech & Co puisque c'est lundi de Pâques, mais on sera là mardi, bien sûr, dès 20h, en direct à la radio, à la télé. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end. À très vite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.